On choisit nos mots, bien sûr, mais est-ce qu'on choisit vraiment les concepts qui se cachent derrière? On dit qu'une chose est courageuse, une autre juste, ou même kitsch. Ça nous semble normal. Mais si quelqu'un en face demandait simplement « Et alors ?» qu'est-ce qu'on répondrait?
C'est une question redoutable, ça. Parce qu'elle ne demande pas si ce qu'on dit est vrai.
Non.
Elle remet en cause le fait même d'utiliser ces mots-là. Elle nous demande de justifier nos propres outils de justification, de donner en quelque sorte des raisons pour nos raisons.
Exactement. Et c'est précisément le sujet de notre discussion aujourd'hui. On va se plonger dans un ouvrage qui prend cette question à bras-le-corps, « The Ethics of Conceptualization » de Matthew Kellows.
Tout à fait.
Pour ceux qui nous écoutent et qui sont dans la philosophie, c'est une approche qui bouscule un peu les choses. L'idée, ce n'est plus seulement de savoir si une croyance est vraie, mais de se demander si les concepts qu'on emploie pour la formuler, eux, tiennent la route.
C'est ça. L'auteur parle d'éthique conceptuelle. On arrête de regarder le monde à travers nos lunettes et on se demande si on a les bonnes lunettes sur le nez. C'est un passage au second ordre. On ne réfléchit plus seulement avec nos outils, mais sur nos outils.
Notre mission, c'est donc de voir comment cette approche peut nous aider à éclairer et peut-être même à améliorer notre propre façon de penser. Allez, on y va. Alors, le livre commence avec une distinction qui m'a l'air centrale entre la justification d'une croyance et ce que l'auteur appelle la revendication de notre confiance dans un concept. Honnêtement, la différence ne me saute pas tout de suite aux yeux.
Bien sûr. Alors, imaginez un soldat qui désobéit à un ordre qu'il trouve immoral. On peut débattre pour savoir si son acte est courageux ou déloyal. Ça, c'est de la justification. On applique un concept.
D'accord.
La question que pose Kellows, elle est différente. C'est pourquoi est-ce qu'on devrait même se préoccuper d'être courageux ou loyal? Quelle autorité ces concepts ont-ils sur nous pour qu'on les laisse guider notre jugement?
Ah, je vois.
C'est ça la revendication. Justifier le pouvoir que le concept exerce sur nous.
D'accord. Ce n'est pas « est-ce le bon mot ?», mais plutôt « pourquoi ce mot-là a-t-il autant d'importance ?» Et ce pouvoir, j'imagine, il est considérable.
Ah oui, loin de là. Kellows utilise une métaphore que je trouve très, très parlante, celle de l'architecture conceptuelle.
Oui.
Nos concepts, ce ne sont pas des simples étiquettes qu'on colle sur le monde. Ils construisent les murs, les fenêtres de notre réalité mentale. Ils canalisent notre attention, ils façonnent nos émotions et surtout, ils déterminent ce qu'on considère comme une bonne raison d'agir. C'est une structure invisible qui nous guide en permanence.
Ça me fait penser à cette phrase d'Iris Murdoch qui parlait du siège de l'individu par les concepts. L'image du siège d'une forteresse, c'est très fort.
C'est très fort.
On le voit bien avec ce qu'on appelle les effets de cadrage. L'exemple d'Agamemnon dans le livre est terrible. Doit-il voir son acte comme une obéissance pieuse ou comme le meurtre de sa propre fille?
Exactement. Et le drame, c'est qu'une fois qu'il a choisi un cadre, un concept, eh ben, le jugement en découle presque automatiquement.
Oui, c'est ça.
S'il se voit en serviteur pieux, le sacrifice devient une nécessité tragique. S'il se voit en père, c'est un crime monstrueux. Le choix du concept est déjà une prise de position morale, une soumission.
Et ce pouvoir est particulièrement redoutable avec ce que le livre appelle les concepts normatifs denses. J'aimerais qu'on s'arrête là-dessus. Des mots comme chaste, chevaleresque, courageux, qu'est-ce qu'ils ont de si particulier?
Leur particularité, c'est qu'ils fusionnent une description et une évaluation. Si je dis quelqu'un est cruel, je décris une action, il fait souffrir, mais j'y attache en même temps, et de manière inséparable, une condamnation.
D'accord.
La partie descriptive est souvent factuelle, donc difficile à nier. Et la partie évaluative, elle est comme passée en contrebande, intégrée au mot lui-même. C'est ce qui les rend si efficaces pour orienter discrètement nos jugements, quoi.
Attendez, pour être sûr de bien suivre, ça me rappelle des débats en philosophie du langage. On a des auteurs comme Robert Brandom qui s'intéressent beaucoup à la normativité dans l'usage d'un concept, c'est-à-dire les règles pour bien l'utiliser. Est-ce que Kellows dit que ce n'est pas la question la plus intéressante?
C'est exactement ça. Il ne dit pas que ce n'est pas important, attention, mais que ce n'est qu'une partie du problème. Brandom nous aide à comprendre comment un concept fonctionne une fois qu'on a accepté de jouer son jeu. Kellows, lui, il prend un pas de recul et il demande « Mais pourquoi on devrait accepter de jouer à ce jeu-là pour commencer ?» Il s'intéresse à l'autorité de l'usage, pas juste à l'autorité dans l'usage.
Ça explique une remarque de Joseph Raz, qui est citée dans le livre, et que je trouve à la fois très juste et un peu déprimante.
Ah oui.
Il se dit que souvent, dans les débats en philosophie, une théorie ne gagne pas parce qu'elle a les meilleurs arguments, mais parce qu'elle réussit à rendre les théories rivales inintelligibles. On ne peut même plus les comprendre. On devient prisonnier de notre propre jargon.
On est complètement prisonnier. Ça me rappelle des séminaires interminables où on passait des heures à débattre d'un mot sans se rendre compte qu'on ne parlait pas de la même chose. Chacun était enfermé dans son cadre conceptuel. Et c'est là que l'éthique conceptuelle devient une vraie bouffée d'air frais. Elle nous donne une méthode pour sortir de ces impasses, en nous forçant à monter d'un niveau pour examiner les cadres eux-mêmes.
Cette idée de se regarder penser, c'est puissant, mais ça me laisse avec une question assez vertigineuse. Comment on fait? Si je suis à l'intérieur de mes propres concepts, quels outils il me reste pour les juger? Sur quel sol je me tiens? C'est un peu le serpent qui se mord la queue, non?
C'est le grand paradoxe, oui. Et la solution que propose Kelos est assez élégante. Elle repose sur la distinction entre un usage engagé et un usage désengagé des concepts.
D'accord.
L'usage engagé, c'est notre mode par défaut. Quand on utilise le mot juste, on est sensible à l'injustice, on ressent de l'indignation, on est prêt à agir, on est dans le concept.
Ok, c'est l'usage normal, quotidien. Et l'usage désengagé, alors?
Ce serait de prendre du recul, d'observer le concept de juste comme un objet. On se demande qui l'utilise, dans quel contexte, qu'est-ce qu'il justifie. On l'analyse sans forcément adhérer à son autorité. C'est ce qu'il appelle adopter une posture auto-ethnographique.
J'aime beaucoup cette image. On devient l'ethnographe de sa propre tribu, de son propre esprit.
C'est ça. On s'observe soi-même avec la curiosité et la distance qu'aurait un anthropologue. Et cette posture, elle est cruciale pour éviter deux pièges. Le premier, c'est un relativisme un peu paresseux.
C'est-à-dire?
Le fait de réaliser que nos raisons dépendent de nos concepts ne veut pas dire qu'on doit conclure « bon, bah, tout est relatif ». Penser « cet acte est injuste » n'est pas la même chose que de penser « pour ma culture, cet acte est injuste ». Le premier est un engagement, le second une observation.
L'analogie avec le jeu d'échecs est parfaite pour ça. Si je joue aux échecs et que je vous mets échec et mat, je ne dis pas « j'ai gagné selon les règles des échecs ». Je dis « j'ai gagné ». Point.
Exactement.
La vraie question, ce n'est pas dans le jeu, c'est de savoir pourquoi on a choisi de jouer aux échecs plutôt qu'à un autre jeu. La question se situe au niveau du choix du jeu.
Précisément. Et le second écueil, il est plus subtil. Il est lié à l'idée de confiance, que Bernard Williams a beaucoup explorée. Williams disait que la réflexion peut détruire la connaissance. Kelos affine ça. La rencontre avec d'autres manières de penser peut éroder notre confiance dans nos propres concepts.
Et sans cette confiance?
Sans cette confiance, on ne peut plus les utiliser de manière engagée, spontanée, on est paralysé par le doute. Et on perd l'accès à la vision du monde que ce concept nous donnait.
Et là, l'exemple de Oscar Wilde pendant son procès, il est extraordinaire, il faut le raconter. Le procureur l'accuse d'avoir écrit une histoire blasphématoire.
Oui, il le pousse dans ses retranchements, il lui demande encore et encore « n'est-ce pas blasphématoire ?»
Et la réponse de Wilde est géniale.
Il ne dit pas « non, ça ne l'est pas ». Il sait très bien que, selon les normes de l'époque, son histoire coche toutes les cases du blasphème.
Alors il répond quoi?
Il répond simplement « le mot blasphématoire n'est pas un de mes mots ».
C'est incroyable. Il refuse de jouer le jeu. Il refuse d'utiliser l'outil qu'on lui tend.
C'est un acte de résistance conceptuelle pure. Il conteste l'autorité même du concept de blasphème dans le domaine de l'art. En gros, il dit « je comprends parfaitement les règles de votre jeu, et c'est précisément pour ça que je refuse d'y jouer ». C'est la quintessence de la posture auto-ethnographique.
D'accord. Donc on a cette posture critique. Mais une fois qu'on l'a, comment on fait le tri? Sur quelle base on va évaluer nos concepts? J'imagine qu'il y a plusieurs stratégies possibles en philosophie.
Oui, et Kelos montre qu'elle nous mène à un trilemme, une impasse à trois voies. La première, c'est le fondamentalisme. C'est le rêve de Platon, faire en sorte que nos concepts découpent la réalité à ses articulations.
Un alignement parfait entre nos idées et le monde.
Voilà, ça a du sens en physique, mais pour des concepts comme la dignité ou la trahison, c'est plus compliqué de savoir où sont les articulations du monde.
La deuxième voie.
C'est l'ironisme. On pourrait l'associer au premier Nietzsche. On réalise qu'il n'y a pas de fondement absolu et on en conclut qu'il faut se désengager de tout. On devient un sceptique généralisé. Le problème, c'est que c'est invivable.
Et la troisième, c'est l'holisme. Si je comprends bien, c'est une sorte de conservatisme. On accepte les concepts qu'on a hérités du moment qu'ils forment un système cohérent.
C'est ça. On ne pose pas trop de questions. Face à ces trois impasses, le rêve inaccessible, le scepticisme paralysant et le conformisme, Kelos propose sa propre voie. Une approche fondée sur les besoins.
D'accord.
La valeur d'un concept ne vient pas de sa vérité métaphysique, mais de son utilité. Il est bon s'il répond bien à nos besoins conceptuels.
Et là, il y a une formule presque mathématique qui est au cœur du livre. Nos besoins conceptuels seraient une fonction de trois variables: nos préoccupations, nos capacités et nos circonstances. Ça peut sonner un peu abstrait.
Alors, rendons ça concret. Imaginez que vous êtes un juge au XVIIIe siècle. Vos préoccupations, c'est le salut des âmes et l'ordre social. Vos capacités, c'est une connaissance limitée de la psychologie, pas de police scientifique. Vos circonstances, c'est une société très religieuse.
D'accord.
Le concept de crime dont vous avez besoin dans ce contexte sera radicalement différent d'une autre. Il va inclure des notions comme le blasphème ou la sorcellerie. Ce concept n'est pas un choix arbitraire, il émerge de la rencontre de ces trois éléments.
C'est beaucoup plus clair. Le besoin, ce n'est pas juste un désir, c'est une nécessité qui naît de notre situation. L'exemple sur le concept de volontaire est aussi très parlant.
Oui, on pourrait chercher un concept profond de la volonté, une liberté absolue, détachée de toute influence. Le problème, c'est qu'un tel concept serait vide. Il ne s'appliquerait à personne dans le monde réel.
Ce serait un outil parfaitement inutilisable.
Exactement. Alors qu'un concept plus superficiel, qui accepte qu'on soit des êtres influencés, mais qui se concentre sur des distinctions pratiques. Est-ce que l'acte était intentionnel? La personne était-elle dans un état normal? Eh bien, il répond beaucoup mieux à notre besoin de tenir les gens pour responsables, de manière juste et efficace.
Donc la superficialité devient une vertu.
La superficialité devient une vertu, pas un défaut.
C'est fascinant parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous apprend en philosophie où on vise toujours la définition la plus rigoureuse, la plus propre possible.
Absolument. C'est une critique de ce que Kelos appelle la tyrannie des vertus théoriques. On pense qu'un bon concept doit être simple, cohérent, sans contradiction. Mais parfois, un concept vague, comme celui de bien commun, est précieux justement parce qu'il permet à des gens très différents de former une coalition politique.
Et parfois des concepts qui entrent en conflit, comme la liberté et l'égalité,
ne sont pas les signes d'une pensée confuse.
Mais le reflet d'un conflit bien réel dans nos vies. Tenter de les fusionner nous ferait perdre la capacité de voir cette tension qui est pourtant essentielle.
Voilà. Le conflit conceptuel n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Il nous montre la complexité de nos propres aspirations.
Nous ramène sur Terre avec une question simple. Étant donné qui nous sommes, ce qu'on peut faire et le monde où on vit, de quel concept a-t-on réellement besoin?
C'est une démarche profondément humaniste. Elle reconnaît que nos concepts ne sont pas des miroirs du monde, mais des instruments qu'on se forge pour y naviguer, pour y vivre une vie qui a du sens pour nous.
Dans ce contexte, ce n'est pas étonnant qu'il voit en Nietzsche une sorte de figure tutélaire de cette approche. Nietzsche avec son marteau, qui voulait tester la solidité des idoles et démasquer les faux monnayeurs de l'esprit.
Et pour revenir à celles et ceux qui nous écoutent, les conséquences pour la pratique de la philosophie sont immenses. L'analyse conceptuelle classique qui se contente de décrire l'usage d'un mot, ça ne suffit plus. Il faut aussi se demander, est-ce qu'on devrait vraiment vivre selon cette description? Et à l'inverse, l'ingénierie conceptuelle, cette idée de créer des concepts en laboratoire, ne peut pas être un simple exercice de logique. Elle doit être ancrée dans les besoins humains réels, sinon elle ne produira que des outils inutilisables.
Tout ça m'amène à une dernière pensée, une question pour la route. Le livre nous montre que nos concepts les plus fondamentaux sont souvent le fruit de l'histoire, d'accidents, de besoins très locaux. Alors, la question que j'ai envie de laisser, c'est si on appliquait cette méthode sans pitié à un concept central de notre époque, disons la conscience ou la rationalité, quels besoins cachés, quelles préoccupations contingentes est-ce qu'on découvrirait à sa racine? Et une fois ses origines mises à nu, est-ce qu'on serait encore satisfait de penser avec cet outil?